Courant d'air
au-delà des frontières.
Chaque lundi à 14h, écoutez les récits de globe-trotteurs bretons et recevez les témoignages de voyageurs du monde entier vivant en Bretagne. Auditeurs et auditrices de Radio Campus Rennes, bienvenue dans Courant d'air. Cette semaine, Nathanaël nous emmène avec lui à Saint-Martin dans les Antilles, puis nous écouterons Sohrab, originaire d'Afghanistan. Nathanaël, tu es parti un mois à Saint-Martin pour y jouer de la musique, tu fais de la guitare, tu joues avec High Lemons, c'est un artiste pas mal connu là-bas, alors qu'est-ce qu'il fait ?
Lui c'est un artiste de reggae dancehall, mais avec des influences diverses, donc on touche tant des fois au hip-hop qu'un peu de blues, on essaie de mélanger un peu tout. Et du coup on était parti un mois à Saint-Martin pour présenter le nouvel album qui est en préparation.
Et du coup qui est-ce qui t'accueillait ? T'étais logé où ?
Saint-Martin, il y a un côté hollandais et un côté français, donc moi j'étais du côté français à Oyster Pond exactement. Et j'étais chez ses parents avec sa petite sœur et ses chiens. Donc du coup, c'était beaucoup plus sympa qu'être à l'hôtel.
En étant accueilli dans une famille de là-bas, du coup, t'as pu aussi voir comment ça se passe entre les gens, comment ça fonctionne en fait au niveau des codes sociétaux et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que t'as remarqué ?
Plus qu'avec ses parents, c'est surtout en étant avec lui de manière quotidienne. Comme ça faisait 3 ans qu'il n'était pas revenu chez lui, forcément on est allé un peu partout pour aller voir ses amis. Et puis Saint-Martin, c'est pas très très grand. Il y a une route nationale avec un feu rouge sur toute l'île. Donc ça se fait assez vite. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est que j'ai pu être vraiment directement avec des habitants, avec des locaux. C'était assez perturbant au début. La première chose, c'est que, donc, comme je disais, il y a un côté néerlandais, un côté français. Côté néerlandais, c'est anglophone. Côté français, donc forcément francophone. Comme l'île est petite, ça passe vite de l'un à l'autre. Et ce qui fait que des fois, on peut se retrouver dans des conversations. Si on a des personnes dans un même groupe d'amis qui sont au côté anglophone et d'autres côté francophone, il va y avoir des conversations où ça va parler anglais, après français. Ensuite, on aura du patois, donc qui est... un peu comme notre créole, si on prend la différence français Antilles, et là anglais Saint-Martin. Et aussi un peu d'espagnol, j'ai entendu pas mal d'espagnol. Après, c'est normal, on n'est pas très loin de l'Amérique latine. Voilà, et on ressent plus cette influence-là. Moi, je connais un petit peu la Martinique. Et on connaît beaucoup plus, on retrouve plus l'influence, je trouve, des États-Unis et de l'Amérique latine à Saint-Martin qu'en Martinique, où là, on a vraiment beaucoup plus l'influence de la France. Et c'est aussi dû au fait que la Martinique est un DOM et que Saint-Martin est un COM, donc une collectivité d'outre-mer.
So voilà, non, Nati, you don't know, so they're in a French Quarter, you know. Saint Martin, they are chilling, you know, with the horse and the family. You don't know, that's the family, brethren, every time.
Tu m'as envoyé une vidéo où on vous voit jouer tous les deux, c'est vraiment sympa. Je passe un petit extrait aux auditeurs parce qu'on a la situation vraiment sur le moment. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir via le site internet de Radio Campus. Donc sur www.radiocampusrennes.fr, vous allez sur la page de Courant d'air et vous pouvez y retrouver tous les morceaux qu'on passe dans cette émission.
Donc c'est un artiste qui s'appelle High Lemons, donc un artiste de reggae dancehall. Mais donc lui tourne actuellement en France et en Europe, donc principalement en sound system, donc avec un DJ. Et là c'était aussi l'occasion du coup de passer vraiment avec des musiciens. Donc on avait pu faire différentes formations. Ça a été soit percu, batterie, guitare. On a eu d'autres concerts où c'était avec des claviers, avec la basse.
Vibes in on the road again. Yeah, part 2. Hey, see them a come with them articles and rules. What take the people feed donkeys and mules? None of them can take.
Notre démarche sur place était justement de montrer un peu nos diverses influences et montrer qu'on peut retomber d'une certaine manière dans le reggae. Et aussi en passant par d'autres biais. Et c'était un peu une sorte de concept qu'on pourrait dire comme de la western music, dans le sens où les paroles restaient toujours proches de ce milieu reggae, ce milieu rasta, mais en passant par d'autres rythmes, sachant que c'est, pour moi, si c'est une idéologie, c'est quelque chose d'universel, et donc qui ne passe pas forcément que par le reggae, et du coup, c'est ce qu'on voulait aussi expliquer et montrer aux gens.
Allez, y'a maintenant. Yo, filmé. I and I see them, I come with them articles and rules. What take the people fit donkeys and mules?
Nathanaël, toi tu es Rastar, explique-nous ce que ça veut dire pour toi, ce que ça implique dans ton quotidien et puis dans ta façon de voir la vie.
Donc pour moi oui, Rasta c'est une... Donc, c'est dur de mettre forcément un mot dessus, on peut dire que c'est une spiritualité, on peut dire que c'est une foi, que c'est une philosophie. Avant tout pour moi c'est aussi être soi-même et se poser soi-même ses règles et se faire sa propre foi, sa propre spiritualité. Et c'est quand même régi par une certaine... essayer d'avoir une certaine droiture et d'avoir une vie saine et une vie simple. Donc ça va passer pour des exemples peut-être plus concrets par le fait de, voilà, moi je suis végétarien depuis que je suis né, ça va être le fait de ne pas forcément de pas fumer, ne pas boire d'alcool, faire attention à ce qu'on fait, essayer de faire attention aussi à ce qu'on pense et à ce qu'on dit, et puis vivre avec le sourire et vivre avec amour.
Si on revient à Saint-Martin par rapport au niveau de vie des habitants, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté ?
Oui, ça se ressent d'une manière générale. Bon, je l'ai pas dit parce que pour moi ça me paraît logique, mais c'est vrai que ça l'est pas forcément pour des personnes qui sont restées en métropole, mais les Antilles et les Caraïbes d'une manière générale, il y a tout l'envers de la carte postale. Donc c'est des zones en tout cas où il y a beaucoup de chômage, il y a de la pauvreté, il y a beaucoup de violence. Là également on sent l'influence des États-Unis, mais sur le côté justement pas forcément dans le bon sens, il y a pas mal de guerres de gangs qui s'inspirent également justement des gangs américains. Et ouais, non, c'est assez violent.
Saint-Martin, c'est assez touristique, non ?
Saint-Martin est une île qui vit essentiellement grâce au tourisme. Et donc c'est très 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 présent. Pour moi, trop. Après, il y a des raisons économiques également derrière. Mais ce qui fait que certains lieux dans l'île sont vraiment dédiés au tourisme. Donc on va retrouver beaucoup de bars, de magasins, de casinos. Sur toute l'île, on va avoir des cars de touristes américains qui font le tour de l'île dans un car climatisé, qui prennent des photos dans le car, un peu comme un safari. Et donc ça, c'est assez perturbant. Mais je trouve que les locaux ont, au niveau du comportement, entre guillemets, avec les touristes en général, sont assez cléments.
À Saint-Martin, vous avez été reçu comment, accueilli comment par le public ?
Nous, on a fait 6 concerts sur place qui sont tous très bien passés. On a eu plus ou moins de monde en fonction des concerts. Mais dans l'ensemble, on a eu que des très bons retours. Après, ce qui m'avait choqué un peu là-bas, mais Elements m'a expliqué que c'est comme ça que ça se passait aussi là-bas, c'est qu'au niveau du public, les gens vont pas forcément danser. Ni même bouger, dans le sens où quand on est sur scène, c'est beaucoup plus les touristes qu'on va voir sur le devant de la scène à danser. Et au niveau des locaux, même nos amis qui étaient là et qui sont venus à tous nos concerts étaient sur le côté, des fois à la limite même sur le côté, les bras croisés à regarder et à peine hocher de la tête. Mais quand on allait les voir à la fin du concert, ils étaient là à nous dire « Ah, c'est génial, j'ai adoré, c'est quand le prochain concert ?» Donc c'est assez perturbant parce que vraiment, et je l'ai pu le voir aussi dans notre concert où c'est pas forcément nous qui jouaient, et les gens étaient là assis à regarder, mais ne dansaient pas. Donc ouais, c'est perturbant quand on est sur scène parce qu'on est en train de se dire que c'est nul ce qu'on fait, et en sortant de nos scènes, tout le monde nous dit ah, c'était génial, et on les voit les mêmes revenir aux autres concerts, donc c'est qu'ils apprécient, mais juste pas de la même manière, et ils extériorisent pas de la même manière aussi, je pense, du coup, au niveau des émotions.
Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs avant de rendre le micro ?
Souriez, vous êtes vivants.
On écoute maintenant un morceau de Elements, Skin a Burn.
Free up your children. Let me tell you about this girl, Anna. 9 years old, Americana. Born in here as a Venezolana. Every day she get beat up from she mama. And let me tell you about this little boy, John. And every day him have to make it through the slum. Have to find food for him that has a son. And still give money to him father and mom. Now make me tell you about this one named Dave. In the street every day him go on like him brave. where you never know is that when him touch home, him parents are treating like slave. Let me tell you about the boy Gary. I go on like a man cause him face get eerie. Now he's the rasta man and now I'm more scary. In God he sell a sea and nobody can see me. So me go button the eagle, button the berry. Me go burn all president, go burn all the Mary. Man a rasta man, no me not ordinary. Burn the fire first class, now secondary.
Then I learn, that's why I'm not seen a burn. But you are anything then I burn. Trouble I come nowhere to turn. Every man pass by, she peel them banana. Her tell me she hot, but she is a Ghana. Can't trick Rasta man, cause she a no charmer. She a no empress, than a drama. She no nail, but get beat with armor. Every day she dream for meet Mr. Obama. Say she want a good life, for living in Obama. Yo, now make me tell you about boy Johnny. To me, him have a gun, him not listen, him auntie. Say him a big man, a take chat from nobody. Him not have no care, but move fast like Hardy. To him have money and not have some shoddy. And every night, no flex out on a new party. Me name Elements, me lyrical daddy.
Them not learn, that's why not seen a burn. But you are anything, then not burn. Trouble I come nowhere to turn. Venezolana. Every day she get beat up from she mama. And me tell you about this boy John. And every day him have to make it through the sun. Have to find 14 that has a son. And still fi give money to him father and
them na learn. That's why not skin a burn. But you are your meeting and la burn. Trouble I come nowhere to turn. Things get jaded. Now these street things are run better. Now get a youth, then I lose them head. Find out them man who will lose it. Screen a burner. True enough for them a learner. But you are your meeting and a burner. Trouble a come nowhere to turn. Things get jaded. Now these street things are run better. Now get a youth, then I lose them head. Find out them man who will lose it.
Yeah. Element set it and bless it universally. Earthquake family for the youth them.
Pour la seconde partie de Courant d'air, nous accueillons Sorab. Tu es né à Kaboul et tu habites actuellement dans le petit village de Topon dans le Morbihan. Tu es arrivé en France en 1970 grâce à une bourse de l'enseignement supérieur, ce qui t'a permis de continuer tes études de biologie en France. Tu as un doctorat en pathologie des plantes et tu es professeur dans un lycée agricole à Plohermel. Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour se préparer avant d'aller en Afghanistan ?
De façon officiellement, le ministère va dire que il ne faut pas aller en Afghanistan parce que c'est un pays qui est en guerre. Et ce qui n'est pas faux. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, que les Afghans, quelle que soit la situation, ce sont des gens accueillants. Et donc, parfois, quelques précautions. C'est vrai que si vous parlez quelques mots de persan ou d'afghan, ce sera le bienvenu parce que vous vous intégrez directement. Et après, donc, ne pas trop insister sur les gestes quotidiens qu'on a en France. Donc, respecter un minimum les mœurs et les coutumes des gens. Surtout, ne pas dire que voilà, je viens ici pour vous apprendre comment il faut vivre. Mais ce qu'aiment les Afghans en général, donc, accueillir. Donc, si vous êtes reçu chez quelqu'un, ou bien même si vous connaissez personne, allez vous présenter, les gens vous offrent de quoi à boire ou à manger. C'est des canaux aussi en partage. il aimerait bien rencontrer d'où vous venez, ce que vous faites, mais surtout ils vont vous demander quelles sont les nouvelles à Paris, surtout les Champs-Élysées, parce que les Afghans, ils ont souvent entendu parler des Champs-Élysées de Paris. Autrement, votre vie de quotidien, ça les intéresse aussi. Autrement, vous pouvez prendre des photos donc des gens donc à droite et à gauche. Bon, malheureusement, actuellement, l'Afghanistan n'est pas tout à fait sécurisé, que vous ne pouvez pas aller partout. Mais par contre, vous pouvez toujours être accompagné par un Afghan. Après, vous allez où vous voulez, sans trop de problèmes. Et après, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas embrasser les femmes, ne pas demander les nouvelles des femmes.
C'est pas très poli d'appeler ses parents ou ses grands-parents par leur prénom ?
Oui, en fait, ça, c'est une tradition sans lien avec la religion, parce que souvent, les gens confondent les religions et les traditions. Donc, c'est par respect aux parents, d'abord, et parfois même aux grands frères ou à la grande sœur, et dans tous les cas, toutes les personnes âgées du village. Donc, ils avaient toujours un surnom, souvent Julie, donc... ou parfois donc, d'autres surnoms, même qu'il n'y a pas de lien direct avec la profession. En fait, c'est une sorte de respect donc, des grands, principalement. On l'appelle Coco John, c'est dit que mon oncle aimé, des choses comme ça. C'est comme la poésie afghane, que je suis moins nul, mais c'est toujours de dire des choses qui font plaisir. Et parfois, ils ont des expressions, quand une chose qui est mal, ils le présentent de telle sorte que ce soit gentil.
Des expressions afghanes qui reflètent la vie courante.
Kharbouza, kharbouza dida rang megra. C'est de dire que un moulon change de couleur en regardant donc un moulon voisin qui a changé de couleur.
Tu jouais à quel jeu quand tu étais petit?
Quand j'étais dans le village, c'était qu'à 30 km au nord de Kaboul. Notre quotidien, ça se limitait à peu de choses, hein. Donc soit on allait à l'école, soit on restait dans le village. Donc dans le village, c'est notre quotidien, c'était préparer des jeux, donc nous-mêmes, en recyclant un certain nombre de matériaux. Le jeu que j'ai apprécié beaucoup plus que je pratiquais, c'était un jeu qu'on appelle Tobdanda, c'est-à-dire que le bâton et la balle. Donc il y avait une équipe de entre 10 et 12 personnes et on jouait souvent ça et on courait pas mal. Donc c'est également tout ce qui est glissade sur des terrains enneigés ou bien glacés. Donc on mettait des clous sur le talon de chaussure en fait, et après on faisait des patins comme ça et sans haute protection. Sinon, quand on est petit, surtout en été, printemps, donc notre objectif, c'est aller monter sur les arbres et manger des fruits.
Ton père était visiblement quelqu'un de très ouvert sur le monde.
Oui, je pense que oui, mais à tel point que maintenant, avec recul, je me demande ce qu'il a eu dans son enfance, son histoire que je ne connais pas. Donc, d'où ce qu'il avait appris ces histoires qu'il nous racontait quand on était petit, mais surtout aussi que je me rappelle toujours que mon père avait toujours un petit transistor avec des ondes courtes. Étant donné qu'il y avait très peu d'informations au niveau des pays, donc mon père avait à des heures fixes, hein, écouté la radio donc au niveau international, Radio Moscou, Radio Pékin, Radio Caire et également la BBC à l'époque. Donc je pense que c'est quelqu'un qui cherchait à comprendre ce qui se passe dans le monde. Et peut-être aussi, ça vient du fait que mon père n'a jamais connu l'école, qu'il n'y est pas allé et qu'il était à la recherche d'informations. Et je pense aussi qu'une des raisons que mon père a tout fait pour que nous, on aille à l'école, ça peut venir là.
D'ailleurs, ta petite sœur est allée à l'école.
Ma vie, ce qui est curieux, que ma petite sœur, que maintenant elle a au moins une cinquantaine d'années, est allée à l'école à la campagne, hein, dans une classe mixte. Et qu'à l'époque, même à Kaboul, c'est-à-dire dans la capitale, il y avait des écoles pour les filles et l'école pour les garçons. Et bien que mon père était religieux, et il avait un esprit très ouvert vis-à-vis de la vie courante et surtout l'éducation de ses enfants.
Thank you.
père connaissait beaucoup d'histoires et il vous en racontait quand vous étiez gamin.
Oui, en fait, en Afghanistan, à l'époque, dans le village, donc, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y en a toujours pas, je crois. Et nous, on vivait le rythme solaire. Donc, on mangeait donc, quand il y avait encore soleil ou juste on avait une lampe, soit à pétrole, soit des kérosènes. Et après, donc, à 9h du soir, on dormait tous en famille, en général, toujours dans les grandes pièces avec frères et sœurs. Et comme les nuits parfois étaient longues, donc mon père commençait à nous raconter des histoires récentes. En fait, il faisait à peu près de l'histoire de l'humanité, si on peut dire. Parler des dragons, parler des rois et souvent des princesses. Il y a toujours quelqu'un qui venait demander la main de la princesse, mais que la princesse en fait avait des exigences. Il fallait que tu m'amènes ça, 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 ça. Vous voyez que des choses presque impossibles. Il y a beaucoup de gens qui demandaient la main de la princesse et la princesse demandait des choses impossibles. Que 9 fois sur 10, ces prétendants ne revenaient pas parce que c'était impossible à satisfaire. Et là, je ne sais pas d'où ce que mon père avait appris ça. Et maintenant, avec le peu de connaissances que j'ai sur l'histoire et surtout la biologie, j'ai l'impression qu'il nous racontait un petit peu l'histoire de l'humanité que lui, il avait appris sûrement de ses parents ou ses grands-parents.
La condition des femmes a beaucoup changé en Afghanistan depuis les années 60.
Ce n'est pas toujours facile d'expliquer, surtout quand c'est un Afghan qui parle. Les femmes ont voté en Afghanistan pour la première fois en 64. À cette époque, on avait des ministres femmes et des ministres députés. Donc cette évolution, si on peut l'appeler libération, les conditions féminines a continué à progresser jusqu'en les 70. Donc les femmes, surtout les Kaboulis, ils étaient presque à la mode iranienne, c'est-à-dire à la mode occidentale. Et ça a duré jusqu'en 80, donc, quand il y a eu donc, l'entrée des soviétiques en Afghanistan. Et après, donc, il y avait les mouvements opposés au gouvernement, donc, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Moudjahidines. Donc bien que la situation était défavorable, les femmes travaillaient, les filles allaient à l'école, jusqu'en 92, à l'arrivée des Moudjahidines au pouvoir. En fait, c'est là qu'on voilait les femmes qui étaient dévoilées à cette époque, soit directement, soit indirectement, les menaçant. Donc, ce qui fait que les femmes se sont emmurées, c'est que surtout les filles qui travaillaient, qui allaient à l'école, donc sont restées chez elles. Et l'arrivée des talibans en 96 a accentué la situation. Donc, toutes les mesures prises par les talibans, c'était contre les femmes. Et un minimum de liberté pour les femmes et même pour les hommes. Donc les talibans, on appelle talibans des étudiants en religion, en fin de compte, c'est des gens qui ne savent même pas lire. Donc les Pakistanais, donc ils ont essayé d'avoir une influence directe sur le gouvernement afghan en créant ce groupe-là avec l'aide d'autres pays. Donc ils ont éduqué, éduqués dans le sens de les armer, comment il fallait en fait utiliser les armes pour prendre le pouvoir, ce qu'ils ont fait. Parce que les talibans, dans une main, ils avaient le Coran, dans l'autre main, ils avaient le Kalachnikov. Ils ont pris facilement le pouvoir parce que les gens n'étaient pas contents du système. Depuis 2001, donc suite à l'intervention occidentale, il y a une police, il y a une armée. C'est des corps de métier qui ne sont pas tout à fait formés, ni pour maintenir la sécurité, ni pour amener la paix en Afghanistan. Donc d'où le problème qui est posé. Si l'armée occidentale quitte l'Afghanistan à la fin de cette année, on ne sait pas ce qui va se passer. 9 fois sur 10, les gens pensent qu'il va y avoir une guerre civile, de nouveau. Je pense que les Occidentaux auraient dû faire un peu plus d'efforts sur tout ce qui est aspect économique du pays, quelques usines, un peu développer l'agriculture et d'autres infrastructures pour que les gens soient occupés et tenir à la vie que faire la guerre. Et également viser principalement l'éducation, qui est très important. Quand on a le ventre plein, et quand on a un travail, je pense qu'on ne fait pas la guerre.
De quelle façon tu envisages ton intégration, si je puis m'exprimer ainsi ?
La question pour moi n'est même pas posée, si je peux dire. C'est vrai que les premières années, on était très bien accueillis. On était invités presque chaque week-end chez les gens, principalement les personnes âgées. Et on avait énormément de copains jeunes, de tout âge. Donc on vivait sans problème, hein. Mais de retour à Lyon, une fois que je suis allé à Toulouse, où j'étais marié avec une Française, et on cherchait un logement. On téléphonait pour une location, le logement était libre. Quand on se présentait, le logement était déjà loué. Et je me rappelle toujours que le troisième refus, ma femme était en larmes. Pourquoi on nous refuse un logement qui est encore libre? Autrement, on était très accueillis souvent par tout ce qui est administration, même la police. Parfois, la police nous excusait, nous expliquait quelle était la règle. Autrement, depuis que je travaille, la question d'intégration pour moi n'est pas posée. Je respecte tout ce qui est règles et lois, droits et devoirs. Peut-être que je suis même trop intégré parce que je m'investis dans tout ce qui est la vie locale. J'ai été en général toujours syndiqué, un peu politisé et je me permets d'intervenir de temps en temps dans la vie publique, comment il faut avancer ensemble et vivre ensemble.
Pour info, le week-end dernier, on a fêté Nowruz, c'est le nouvel an zoroastrien. Et c'est un jour férié, donc qui varie un petit peu, soit le 20 ou le 21 en fonction des pays. C'est un grand événement en Asie centrale, et donc on en profite à cette occasion pour aller voir la famille, ses amis, pour s'habiller, organiser de grands repas, beaucoup d'activités, de jeux. C'est une fête d'origine perse, et elle a été reconnue journée internationale. Elle a été inscrite dans le patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. On écoute de suite un morceau de musique traditionnelle afghane. Je vous invite à consulter la page de cette émission sur le site internet de Radio Campus Rennes, www.radiocampusrennes.fr. Vous y retrouverez tous les morceaux de cette émission et d'autres infos. Merci beaucoup à Did Jibril pour la musique de l'émission, à nos invités ainsi qu'à Claude pour son soutien à la réalisation de l'émission. Très belle semaine à vous.
Omaydi Didar, wa khuda hafiz.